Bonjour, merci d'être présent dans cet auditorium du Petit Palais qui reçoit toutes nos rencontres littéraires, celle de la Maison des écrivains et de la littérature. Je suis très très heureuse aujourd'hui que nous ayons pu faire que se rencontrent Akira Mitsubayashi et Daniel Arsan, et encore plus heureuse que ce soit Antoine Perrault, notre complice dans le questionnement à la littérature, qui les fasse dialoguer tous les deux. Antoine Perrault, vous le savez, est journaliste. Vous pouvez retrouver ses textes et ses entretiens sur Mediapart, qu'il occupe intégralement. Non, pas vraiment. Et puis, ses articles critiques dans La Croix. Et puis, bien sûr, il est le producteur d'une émission qu'on aime à écouter le dimanche sur France Culture, qui est Tire ta langue. Voilà, Antoine Perrault, je te cède la parole. Merci.
Pour essayer d'aller vers nos invités, puisqu'il s'agit d'animal de compagnie, comme on dit un peu bêtement, je n'ai jamais eu le moindre animal, et du coup je me suis tourné vers un vieux souvenir, un cahier de poésie d'il y a 44 ans, de l'école de la rue Victor Cousin, l'école de garçons. Il s'agissait de la 7e. Et parmi ces poésies, j'ai retrouvé, nous avions à apprendre des poésies par cœur, une poésie de Du Bellay. C'est une très longue poésie, ça sera un très court extrait, rassurez-vous. Il l'a écrite en 1588, 2 ans avant sa mort, en 1558, pardon, et c'est Épitaphe d'un chat. Il avait un chat qui s'appelait Belot, et dans ce poème, il parle de ce chat à son ami qui s'appelait Mani. Mon Dieu, quel passe-temps c'était quand ce belot virevoltait, folâtre, autour d'une pelote. Quel plaisir quand sa tête saute, suivant sa queue en mille tours, d'un rouet imitait le cours. Ou quand, assis sur le derrière, il s'en faisait une jarretière, et montrant l'estomac velu de panne blanche crépelue, semblait, tant sa trogne était bonne, quelque docteur de la Sorbonne. Belot n'était point malplaisant, Belot n'était point malfaisant. Il ne fit honte, plus grand dommage que de manger un vieux fromage, une linotte et un pinson qui le fâchaient de leur chanson. Mais quoi, Mani, nous-mêmes hommes, parfaits de tout point, nous le sommes. Et donc, je voulais commencer par cet acte démiurgique qui n'appartient qu'à l'homme, aussi parfait ou imparfait soit-il, qui est l'acte de nommer. Et je voulais demander d'emblée à chacun de nos invités pourquoi ils avaient donné ce nom à l'animal dont il est question dans leur livre. Quel est, du reste, le nom prononcé donne à chaque fois le titre du livre dont il sera question. Daniel Arsan.
Passé pour un père fouettard, je l'ai appelé Kétal parce que je me disais que s'il faisait des bêtises, c'était un mot qui résonnait pas mal, qui était très, un peu comme une mèche de fouet, comme ça. Et puis, j'aime beaucoup l'espagnol, donc je parle un peu l'espagnol. Et puis, je trouvais que c'était bien, à chaque fois que je prononçais son nom, de dire comment vas-tu ? Hola, ¿qué tal ? Et il me répondait.
Il vous répondait. Et vous, Akira Mizubayashi, le nom, rappelons-le.
Pourquoi avoir choisi Mélodie ? Eh bien... C'est venu tout à fait naturellement. C'est parce que la musique, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important, sans lequel ma vie ne serait pas totalement équilibrée. Donc notre appartement est sans cesse habité par la musique. Donc je n'ai pas hésité une seconde. On aurait pu choisir d'autres, d'autres noms hein, en relation avec, avec la musique, mais le premier mot qui nous est venu à l'esprit, c'était mélodie. Et je me souviens très bien, si un jour j'ai un autre chien, ça peut être, je ne sais pas, da capo, rythme, etc. Mais parmi les mots évoquant la musique, il m'a semblé que le mot mélodie était le plus doux et le plus facile à prononcer pour les Japonais, pour mes parents, pour nous. Donc voilà, ça a été décidé assez facilement de cette façon-là. Et d'ailleurs, parmi les petits qu'elle a eus, il y en a plusieurs qui portent un nom en relation avec la musique. Il y en a un qui s'appelle Bartok, un autre qui s'appelle Amati, un autre Tosca. Voilà, c'est un peu pour marquer notre manière d'exister avec la musique dans ce monde. Voilà.
Rappelons dans une France devenue parfaitement franglaisante que mélodie ne s'écrit pas avec un Y. Mais vous avez bien choisi.
Ah oui, il fallait que ce soit absolument le mot, la transcription en français.
En français. Oui. Et donc, chacun d'entre vous a choisi un nom dans une langue qui n'est pas, même si vous ne pratiquez peut-être pas aussi bien l'espagnol qu'Akira Mizubayashi pratique le français, mais dans une langue qui n'est pas votre langue. Et comment expliquer ce qui nous apparaît, nous, à première vue, comme une mise à distance, mais mise à distance, de par le nom dans une langue étrangère, est antinomique avec la relation que vous avez eue, chacun, avec votre animal, enfin, parce que de mise à distance, il y en a très peu. Daniel Arsens, c'était...
Comment vous dire C'est-à-dire que c'est, je pense aussi pour inconsciemment, hein, mais je pense que c'est pour ne jamais oublier que l'on est très très proche tout en parlant des langages différents. Mais en même temps, c'est deux langues qui peuvent dialoguer ensemble. Voilà, je pense que pour moi, c'était ça en particulier. Voilà, c'est comme ça que l'histoire d'amour commence.
Et vous, Kira?
Alors, pour moi, il fallait que ce soit transcrit en français, pas en anglais. Puisque notre univers familial est profondément déterminé par cette langue. Je vis avec une Française, nous avons une fille franco-japonaise qui pratique le français, donc quand nous sommes tous les trois, la langue qui nous vient naturellement, la langue de communication familiale, c'est quasi exclusivement le français. Donc, voilà, c'est... c'était tout à fait naturel, je n'ai pas hésité une seconde, donc il fallait que ce soit quelque chose évoquant la musique et puis la langue française aussi, puisque c'est dans cette langue que nous vivons, c'est par cette langue que nous communiquons à l'intérieur de l'univers familial.
Communiquer la langue qui, par définition, langue commune qui n'existe pas. Néanmoins, cette question, mais communication n'est pas assez fort, langue est trop abstrait. Vous parlez, vous, Daniel Arsens, c'est au cœur de chacun de vos livres, vous parlez d'échanges muets. Et je voudrais lire un extrait du livre Mélodie à propos précisément de ce que vous appelez échange muet. Vous écrivez Akira Mizubayashi, à propos de Mélodie, elle avait capté chez moi un désir, une attente, mais comment ? C'est là l'insondable de ce qui m'attachait à cet animal, celle d'une parole politique capable d'ébranler les consciences dans une société très éloignée du lieu de son énonciation, une société structurée d'une manière essentiellement homosociale. Et les écrivains que vous êtes l'un comme l'autre, je parlais tout à l'heure du côté démiurgique, tombent là sur quelque chose qu'ils n'acceptent pas, une sorte d'impasse linguistique, quelque chose qui a à voir avec la politique, nous y reviendrons. Et vous ne voulez pas, en tant qu'écrivain, considérer ça comme une simple aporie, comme disent les cuistres, en faire une sorte de cercle vicieux qu'on caresserait et qui redeviendrait encore plus vicieux, pour faire allusion à Cocteau. Et donc, une partie de votre écriture consiste à leur, non pas redonner la parole, mais à leur donner la parole qu'ils n'ont jamais eue. Daniel Arsan.
Ben, c'est-à-dire que vivre avec un animal, et, enfin moi en ce qui me concerne avec Kétal, c'est entendre tout simplement quelqu'un, puisque pour moi c'était un animal, mais c'est quelqu'un, c'est vraiment au sens le plus fort du terme, c'est entendre vivre, parler l'autre, cet autre, dans un autre langage. Je pense que aussi le langage du corps est très 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 fort. Étrangement, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de mots. Et en même temps, comment dire, je suis devenu, je pense, vraiment écrivain en vivant avec Kétal, je pense. Il n'y avait pas besoin de mots avec lui, mais j'avais envie de, enfin, j'avais un besoin, une nécessité de dire l'essentiel quand même avec des mots. C'est-à-dire que je devenais encore plus humain presque. J'étais presque à la source de mon langage. Enfin, c'était assez étonnant. Mais comme le premier chapitre du livre, il y avait une sorte de tous les sentiments. Hein, enfin. Et il y a tout un langage du corps, il y a comment dire, un apprivoisement qu'on continue, il y a il y a l'amour, mais il y a aussi la tendresse, il y a l'écoute, il y a le... J'ai compris que le silence était toujours très très habité, enfin, était aussi une forme du langage, une forme du langage. Donc, c'est vrai que j'ai été à très bonne école. Enfin, son silence dans l'écriture m'a appris à savoir dire ce qui était en trop, ce qui était des répétitions. Ça m'a permis aussi d'aller à l'essentiel. L'animal va toujours à l'essentiel, je pense.
Cette question du silence habité.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai le sentiment d'avoir appris beaucoup, beaucoup de choses en vivant avec elle, avec Mélodie. Il y a eu une sorte de leçon que j'ai reçue d'elle, un enseignement même. Moi, je suis prof, donc je suis sensible à cette dimension de transmission. Et d'abord, un animal, c'est un être extrêmement attentif. Tout est signe pour Mélodie. Les gestes que j'esquisse, et puis l'expression qui se dessine sur mon visage, à mon avis, tout est signé. D'où ce regard absolument désarmant de Mélodie. C'est quelque chose, le regard d'un animal, en tout cas le regard de Mélodie. Je n'ai pas eu d'autres chiens. Mélodie, c'est mon premier chien. C'est peut-être le dernier, je n'en sais rien. Pour le moment, depuis 3 ans, ça fait 3 ans qu'elle nous a quittés, mais je n'éprouve pas le désir d'avoir un autre animal. Bon, passons. Donc, tout est signe pour elle, et puis, en fonction des signes que j'aimais, parfois consciemment, parfois inconsciemment, Mélodie réagissait, donc elle émettait des signes. Alors donc tout mon effort a toujours consisté à lire ces signes, à interpréter ces signes. Parfois je réussissais, au début je ne réussissais pas, et c'est pour ça qu'à plusieurs endroits de mon livre, je dis, je crois, excuse-moi, je ne suis pas à la hauteur. J'occupe la position d'élève. Elle occupe la position de maître. C'est pour ça que, Antoine, vous avez employé pour commencer cette séance le mot « animal de compagnie ». Et c'est une expression qui ne figure nulle part dans mon livre, parce que elle n'est pas un animal de compagnie. C'est moi plutôt, je suis un homme de compagnie. C'est un être silencieux, comme tous les grands maîtres dans les arts martiaux, dans les grands arts traditionnels japonais. Donc, c'est un être silencieux. Donc, je n'ai pas voulu la faire parler, parce que c'est un contresens. Elle ne parle pas, elle ne parlait pas, elle ne parle pas. Mais elle a un autre langage que je m'efforçais sans cesse d'interpréter, de comprendre. Donc je n'ai jamais voulu lui donner la parole, sauf dans une page où je parle d'un rêve, et là c'est un rêve. Dans ce rêve, effectivement, j'ai dialogué avec elle, donc j'ai transcrit assez fidèlement ce rêve. Voilà.
C'est vrai que animal de compagnie est une expression qui va si mal à chacun de vos livres, de même qu'animal domestique, puisqu'on se rend compte que c'est le maître qui est devenu animalier, si j'ose dire.
Et oui, domestiqué, oui.
Et vos deux livres, fort précisément ce point que vous venez d'évoquer, vous écrivez, c'est quelqu'un, d'ailleurs vous l'avez dit, vous écrivez lequel appartient à l'autre, qui est qui. Et vous allez jusqu'à Akira Mizubayashi, dans une scène étonnante, jusqu'à humblement demander pardon. Je m'accroupis et ôtais mon masque. Je rapprochais mon visage du sien, que je caressais longuement dans une immobilité réconciliatrice. Après une scène où vous aviez été un peu violent, je lui répétais tout en procédant à des attouchements à la manière d'un roi thaumaturge. Gomenne, 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 pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Vous avez noté visage, vous aussi, visage. Absolument. Il n'y a pas d'autre, vous devenez presque là-dessus intraitable, pas d'autre nom, visage.
C'est un visage, oui. C'est un visage avec un regard. Donc, quand il y a un regard, il y a un visage. Je le sens comme ça, quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours été l'élève, oui. J'ai appris à me taire, à interpréter des choses extrêmement indicibles, mais ce que j'ai appris m'a aussi servi vis-à-vis de mes contemporains. Ça a été au-delà, enfin c'est dans la vie, tout simplement dans ma vie, quoi. Mais c'est vrai que même dans l'abandon, l'animal reste notre maître. Enfin, j'apprenais, j'ai vraiment appris vraiment ce que pouvait être un abandon total, absolu. Dans la première scène, ce que je décris, c'était, c'était une sorte d'abandon heureux, je ne sais pas si on peut le dire, pour un animal, mais il y avait en tout cas sans questionnement, c'était comme ça, il était bien, il était en épousaille à la limite avec moi, et j'avais l'impression que c'était vraiment un don. On donne tellement facilement, nous les humains, et tellement superficiellement, que là, l'animal ne permettait pas les choses superficielles. Donc ça a aussi beaucoup modifié aussi pas mal de relations avec les autres.
Mais ça modifie jusqu'à la langue. Or, vous êtes, je ne vais pas dire un ingénieur des âmes, comme disait Staline, des romanciers, ou un technicien de la langue, comme dit notre société, mais la langue, elle maintient une frontière extrêmement peu poreuse entre l'homme et l'animal. Et le vocabulaire est extrêmement strict. On ne dit pas visage, on dit gueule. On ne dit pas mourir, on dit crever. On ne dit pas la parturiente, on dit qu'elle va mettre bas, etc. etc. Et là, tous les deux, on vous sent choqué jusqu'à ignorer, mettre de côté ce qui pourtant cavale dans la langue française depuis toujours, à savoir le versant animal de la langue, si j'ose dire.
Mais c'est un vocabulaire très chargé de mépris, enfin, souvent. Et pour moi, c'était intolérable. On ne peut pas. L'animal ne vous méprise pas, donc je n'ai aucun droit de le mépriser. Et d'employer un langage qui est méprisant. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Ben oui, exactement, j'ai réagi. Le français est une langue étrangère au départ pour moi, donc j'ai appris au cours de mon apprentissage, ben on apprend ces choses-là. Pour un animal, on ne dit pas accoucher, on ne dit pas mourir, on n'emploie pas le mot visage, etc., etc. Donc quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai rencontré des interdits lexicaux comme ça, mais ça ne correspondait absolument pas à ce que j'éprouvais dans mon fort intérieur, d'autant plus que la langue japonaise ne distingue pas, n'opère pas cette distinction. Donc il a fallu contourner cette difficulté-là. Je crois que j'emploie le mot « visage » au sujet de Mélodie. Et puis, quand elle attendait ses petits, je dis qu'elle était enceinte. Donc il a fallu toute une préparation et pour moi et pour les lecteurs dont je supposais la présence au-delà de l'autre côté de ce livre. J'ai essayé de faire en sorte que je n'ai pas besoin d'avoir recours à ces mots-là, en tout cas dans les premières pages. Ça apparaît plus tard, oui. Et c'est un sentiment de gêne énorme que j'ai éprouvé, cette distinction extrêmement stricte entre les deux vocabulaires. Le mot « bête », c'est difficile à prononcer, c'était difficile à écrire pour moi, parce que ce mot est lié à la stupidité et à un mépris, comme l'a dit Daniel. Donc ça me demandait un gros effort pour prononcer ce mot et pour écrire ce mot-là. Oui.
Mais il y a même un projet politique en trop. Vous citez vers la fin de votre livre, Akira Mizubayashi, Lévi-Strauss sur la séparation radicale et qu'il juge comme une catastrophe entre l'humanité et l'animalité. Vous, Daniel Arsan, vous allez jusqu'à dire, vous écrivez parfois d'une façon abrupte, dans votre livre, moins de 90 pages, et bref, et vous dites « amour, le seul vocable », comme ça, enfin, c'est une phrase comme ça, extrêmement tranchante. « Amour est le seul vocable ». Et donc, quand vous dites « je trouve ça extrêmement choquant, cette séparation », il n'y a rien de choquant, mais pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'animal, ne le qualifions pas, on peut être, pas choqué, mais on peut être surpris, étonné, dérouté, désorienté par ce lien mais exceptionnel que vous décrivez et déployez. Je prends juste un exemple, Akira Mizubayashi ressent comme une douleur siamoise quand sa chienne, alors je ne peux pas dire Meba, parce que ça, après tout ce qu'il vient d'être dit, quand sa chienne délivre des chiots, disons ça comme ça. Et vous êtes pris d'un mal de dos, bon, vous avez des, le terreau est favorable, hein, vous avez souvent eu mal au dos. Mais néanmoins, on se demande, quand Daniel Arsan écrit « qui est qui ?», à un moment je me suis dit « mais qui est en train d'accoucher dans cette affaire ?» Enfin, non, non, ça va jusque-là. Et vous-même, vous jouez beaucoup, Daniel Arsan, de cette confusion qui n'est pas un jeu, qui n'est pas un jeu G-E-U, de cette confusion qui est devenue un projet de vie, j'ai l'impression.
Mais même chez le... Je ne le dis pas dans le livre, mais même chez le vétérinaire, quand il fallait lui faire des vaccins, où tu donnais un comprimé, parce qu'autrement, c'était le rodéo. Mais une fois qu'il était chez le véto, c'était une véritable furie. Il le prenait avec un lasso et autres. Et je me suis rendu compte que... il le recouvrait d'une couverture, il le tenait en santé, je sentais, mais à distance, même à 2 mètres, j'avais une impression de sentir en moi où mes muscles presque devenaient ses muscles. Enfin, il y avait une tension terrible. Et une fois, je me suis surpris. Enfin, même le véto m'a regardé un peu étrangement. Moi, je trouvais que c'était tout à fait naturel. J'ai eu une sorte de miaulement à la... comme lui. Je l'aidais de cette manière. Il y avait le seul moyen pour l'aider, c'était ça. C'était essayer d'adopter, même pas d'adopter, de vivre son langage à ma manière. Mais je n'avais que ça. Et comme quand je l'ai perdu également, il y a eu des soirs où je pouvais manifester mon chagrin que dans une sorte de... miaulement douloureux, oui. Le langage humain ne suffisait pas, en tout cas.
Dans mon livre, il y a une partie qui est typographiquement différenciée et qui s'appelle fragment échappé. Du portefeuille du compagnon d'une chienne. C'est des extraits d'un journal fictif dans lesquels j'ai essayé de présenter une sorte de réflexion sur le thème de la séparation entre l'animal l'animal et l'humain. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que le fait de vivre avec Mélodie m'a conduit vers ce type de lecture. C'est comme ça que j'ai découvert ce livre absolument magistral d'Elisabeth de Fontenay et d'autres livres.
Et, le silence des bêtes.
Le silence des bêtes, oui. Et voilà, donc la vie avec Mélodie m'a conduit vers un certain type de lecture philosophique. C'est comme ça que, à la fin, il y a cette petite citation de Lévi-Strauss aussi. Donc, notre vie commune a duré à peu près 12 ans, Et donc j'ai donc évolué pendant cette période-là. Et petit à petit, comment dire ? Cette séparation radicale entre l'humain et l'animal, ça me posait des problèmes, quoi. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait sciemment. Je voulais que Mélodie soit comme... une sorte de figure d'une transgression radicale concernant la frontière, cette frontière entre la communauté des humains et la communauté des animaux. Et c'est pour cette raison-là que je... Voilà... j'ai pris ce risque, le risque de parler d'un animal, mais en même temps, ce n'est pas uniquement un récit centré sur la vie et la mort de cet animal. Et je voulais dire, dès le début de mon livre, qu'il y avait une autre dimension. Donc, dans le premier fragment, le premier extrait de mon journal fictif, je parle exclusivement de la disparition de mon père. Et voilà, donc c'est un projet qui est annoncé dès le début et puis qui fait son chemin tout au long du livre, Mélodie comme transgression.
Je voudrais, pour vous qui n'avez peut-être pas lu le livre d'Akira Mizubayashi, illustrer ce qui vient d'être dit sur la transgression, une volonté radicale de traverser les frontières, une volonté ici onirique. Ça tombe très curieusement, page 68, quand on sait l'importance de 68 dans votre vie. C'est intéressant. Il faut dire que... 68 est pour vous comme une seconde naissance, enfin. Et donc, page 68, c'est la toute fin de la page 68. Le reste est en page 69. Elle était comme un enfant sorti d'un acte d'amour, des ébats amoureux brûlants dont nous aurions été les acteurs, ma femme et moi, désirant la venue d'un enfant au monde. Elle était ma vraie fille, une fille incarnée dans une chienne que, dans une histoire fabuleuse d'une civilisation ignorée, j'aurais eu, transformé en chien, d'un coït pratiqué avec ma femme, également transformé en chienne, etc. Là nous sommes au cœur, à la fois d'un projet littéraire, anthropologique, et nous sommes au cœur de ce qui peut troubler un lecteur qui n'aurait jamais eu avec un animal, une relation aussi complète et complexe et dévorante que fut celle que vous avez eue tous les deux. Je voudrais revenir sur les points communs et on va essayer de voir ce qu'il y a évidemment de différent entre les deux livres. Le point commun, vous avez entendu 12 ans. Deux mandats d'un maire de Paris. 12 ans, c'est les années que l'un et l'autre ont vécu avec Ketal ou Mélodie, à quelques mois près, oui, 12 ans. Vous avez entendu parler d'un journal, là c'est très intéressant. Il y a le journal fictif qu'on peut lire d'Akira Mizubayashi, et il y a le journal réel qu'on ne peut pas lire et auquel vous faites allusion, tout en disant, curieusement, je n'en parle pas assez ou pas beaucoup de Ketal. Et là, vous avez lu le livre, vous avez vu ce journal où on parlera plus tard du père, si vous voulez bien, mais Akira Mizubayashi, dans son journal, revient aussi sur cette séparation, puisqu'il s'en prend à Descartes, les animaux-machines, etc. et il en pince davantage pour Montaigne. Mais vous-même, ce journal que vous nous faites miroiter en deux occurrences, je ne vais pas jouer au tigre, tiens, encore un animal altéré de scoop, mais dans ce journal, vous ne parliez pas de Quetal, alors qu'il emplit votre vie et ce livre.
Oui, j'en parle très peu même, et j'en parlais très peu, et j'en parle encore très peu. Je pense que je n'en parlais pas dans le journal ou comme ça, ou s'il y avait un problème, s'il y avait l'animal souffrait, avait une maladie ou autre, bon, je le notais, mais je ne voyais pas, je pense, l'intérêt. Pourquoi parler de la personne avec laquelle on vit? Si je transposais au jour le jour notre relation, je pense qu'inconsciemment j'avais l'impression, la sensation, la certitude de donner une interprétation qui serait de toute façon approximative, fausse. Et c'est vrai que parfois de vivre avec cet animal me mettait dans l'illusion qu'un jour ou l'autre, il pourrait peut-être y avoir l'expression absolument juste, le mot absolument juste. Et c'est peut-être pour ça aussi que sa mort m'a presque amené sur d'autres chemins dans l'écriture. Ben, c'est sûr que je n'ai plus jamais voulu écrire, ne m'intéresse plus d'écrire bien, mais d'écrire juste, d'essayer d'arriver au plus près de quelque chose qui semble vraiment du vivant, quoi. Et ça, comment dire, il y a c'est pas une bataille qui se livre. C'est les mots sont à la fois extrêmement impuissants et extrêmement magnifiques. Enfin, d'un seul coup, ils deviennent somptueux et en même temps, ils sont mis en échec. Mais c'est un échec somptueux, enfin, qu'on se doit de vivre, quoi. Je trouve, en tant qu'écrivain, quoi. On sait qu'on n'arrivera jamais à cette chose qu'on s'imagine pouvoir dire, mais comment dire, on s'en approche. C'est comme avec un autre être humain. Enfin, on ne fait que s'approcher de l'autre d'une manière de plus en plus intense ou de moins en moins intense, ça dépend. Voilà. Et ça a été aussi un rapport avec le langage, ce chat. Mais dans mon journal, non, ça ne me venait pas. J'étais avec lui, c'était un apprentissage quotidien, un émerveillement quotidien. Pourquoi cette redondance? Pourquoi dire ce que je vivais, enfin, aussi intensément? Là, vraiment, je sentais que les mots étaient sans aucun intérêt par rapport à ce que je vivais. C'est clair. Voilà, enfin, c'est comme ça que je sentais les choses.
Mais le chat, truchement de l'écrivain, vous savez que c'est la gloire Pierre-François, comme disait Arletty, parce que vous êtes dans Wikipédia. Vous êtes au courant à cause de votre chat est dans Wikipédia. Si. Vous savez, c'est désormais le sens commun planétaire. Quand on veut savoir ce que pensent les gens, il faut aller voir Wikipédia. Et Wikipédia a établi une liste des chats d'écrivains. Ils n'ont pas fait une liste des chiens d'écrivains, c'est intéressant. Et dans les chats d'écrivains, le dernier exemple, après Chanoine de Hugo, Gavroche de Gautier, Amilcar puis Pascal, tiens, d'Anatole France, le fameux Bébert de Céline, Caroun de Cocteau, qu'est-ce qu'on trouve? Quetal de Daniel Arsan. Et pourquoi y a-t-il des chiens, des chats? Pourquoi n'y a-t-il pas de chiens? C'est intéressant, mais on a l'impression, en vous entendant, que c'était intimement lié à l'écriture, au point que Kétal vous a permis de vous réformer, entre guillemets, d'un point de vue stylistique et littéraire. Le chien, peut-être pas tout à fait la même chose, je ne sais pas, enfin, le chien.
Je me permets de vous signaler qu'il existe, qu'on vient de publier un dictionnaire qui s'appelle le Dictionnaire des chiens illustres à l'usage des gens cultivés.
Ah tiens.
Et dans ce dictionnaire, évidemment, Mélodie n'est pas signalée. Mais il y a Ulysse de Roger Grenier et se trouve dans ce dictionnaire. Et puis c'est Roger Grenier qui me l'a offert d'ailleurs. Et voilà, donc il y a pas de liste de chiens illustres dans Wikipédia, mais il existe ce dictionnaire que je viens de recevoir.
Mais il faut dire que on le voit dès la préface de Roger Grenier à votre livre, Akira Mizobayashi, Mélodie arrive dans une espèce de magnifique chenil littéraire, si j'ose dire, puisqu'il rejoint à la fois Ulysse de Roger Grenier, mais également le chien de feu J.B. Pontalis, qui lui-même en avait parlé. Et là, la collection L'un et l'autre trouve une sorte de mise en abîme absolument extraordinaire, dès la préface, où chacun, mais ce sont des gens extrêmement civilisés, qui n'ont rien de bestiaux, mais chacun veut presque, non pas se hausser du col, mais on sent que Roger Grenier est heureux d'avoir une sorte, grâce à Ulysse, de primauté en ce domaine. Mais Roger Grenier est toujours très heureux d'avoir... C'est désormais, il l'a toujours été, mais il l'est depuis très longtemps, le doyen d'âge des éditions Gallimard, et il y tient beaucoup. Et donc, là, on sent quand même cette espèce de petite franc-maçonnerie extraordinaire, des possesseurs de chiens, mais possesseur est encore un mot ignoble, comme maître, je ne sais pas comment dire. Mais là, vous vous inscrivez tout de même... dans une histoire dont on devine vaguement les contours, mais qui nous échappe en grande partie.
Alors, il y a un petit épisode amusant sur ce sujet. Un jour, j'étais dans le bureau de J.B. Pontalis, chez Gallimard, pour préparer, je crois que je discutais avec lui sur mon premier livre, c'est encore... Voilà, c'est ça. Je crois que c'était en 2009-2010. Et là-dessus arrive Roger Grenier parce que leur bureau se trouve l'un à côté de l'autre. Donc ils se voient tout le temps. Et Roger Grenier est entré dans le bureau et puis J.B. Pontalis a saisi cette occasion pour me présenter à Roger. Et tout naturellement, chacun a parlé de son chien et de sa chienne, J.B., Oreste, Roger, Ulysse, etc. Et J.B. A dit à ce moment-là, ben, on va former un club. On va former un club et on va essayer de parler de nos souvenirs, etc. Et... le projet, le désir d'écrire ce Mélodie, Chronique d'une passion, est venu plus tard, donc 4 ou 5 mois après la publication de mon premier livre. Mais quand J.B. m'a dit que c'était très bien, qu'il se faisait un plaisir de le publier, je me suis dit, quand je l'ai revu donc, en arrivant à Paris en juillet, oui, je me souviens, c'était le 24 juillet, quand je l'ai vu chez lui, je me suis dit, mais pour le premier livre, j'ai été préfacé par Daniel Pennac, qui m'avait présenté à J.B. Pontalis, et pour ce deuxième livre, puisque nous formons un club d'amitié canine, peut-être on peut demander à Roger Grenier de préfacer ce livre si ça lui, ça lui plaît. Et il m'a dit oui, pourquoi pas. Tu n'as plus tellement besoin d'être préfacé, mais oui, c'est une bonne idée. Et pour moi, ça me faisait plaisir de placer Mélodie, ce livre donc, sous le signe de l'amitié à la fois humaine et canine, Oreste, Ulysse, Mélodie. C'est comme ça que ça s'est passé.
Daniel Arsan, quelque chose me dit que vous ne faites pas partie d'un club d'amitié féline.
Vous avez raison.
Non, je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas, oui, je n'y ai jamais pensé. Non.
Et là, nous allons, puisque nous avons fait connaissance, nous allons aller vers ce qui vous différencie et qui peut être fait d'intimité, voire de douleur. Donc, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Néanmoins, la grande différence, quand vous expliquez à propos de Kétal, j'étais son ultime repère, pas besoin de faire de jeu de mots prétendument lacanien. La grande différence, c'est que vous vous situez dans une généalogie interrompue. Et ce chat y jouait un certain rôle. Alors qu'Akira Mizubayashi, le chien accompagne une généalogie qui se poursuit avec votre fille. Et là, j'aimerais, Daniel Arsan, que vous puissiez parler de cela, cette solitude, parfois angoissante, parfois apaisée parce que revendiquée, parfois angoissante parce que non choisie, est au cœur de ce livre, et Kétal n'est en rien un pis-aller, n'est en rien un baume, et parfois un miroir qui vous renvoie et nous renvoie avec vous à vos souffrances. Mais Kétal, avec sa mort, c'est aussi une sorte de mur, on le vit comme cela.
La mort de Kétal a été, enfin, le jour même où il est mort, ça a été une journée extrêmement bon, dure, c'est vrai, mais extrêmement étrange, extrêmement fondatrice presque, qui a créé un tournant, qui a engendré une radicalité sur beaucoup de plans. C'est vrai que ma relation au temps est devenue complètement différente, à la fois extrêmement stimulante et beaucoup plus angoissante, mais en même temps vraiment très très stimulante. C'est-à-dire que donc le jour où Kétal est mort, j'ai appelé mes amis les plus chers, les plus intimes, dont certains et certaines surtout avaient connu Kétal. Donc, savez de qui je parlais, et non pas de quoi, de qui je parlais. Mais immédiatement, je me suis dit, je vais faire ce que je n'ai jamais fait, jamais osé faire. C'est que là aussi, là, j'ai franchi des frontières avec lui par rapport à, entre guillemets, l'animalité. J'ai franchi des frontières vis-à-vis de mon passé, et j'ai décidé de franchir des frontières que mon père n'avait jamais repassées. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai vraiment ressenti très très profondément que j'étais à la fois français et arménien par mon père, ma mère était française. Et ce jour-là, j'ai appelé un de mes meilleurs amis qui aime beaucoup voyager et je lui ai dit je veux aller en Turquie, et qui était le pays de mon père, qu'il a fui après le génocide. Et j'avais une peur terrible d'y aller. Mais en même temps, il fallait que je réalise ce qu'il n'avait pas réalisé. Et c'est-à-dire que d'un seul coup, à la mort de Kétal, ce mort est devenu extrêmement vivant. Si je puis dire, j'ai commencé presque à dialoguer avec lui. Ce n'est pas pour rien après que j'ai écrit un livre qui s'appelle Un certain mois d'avril à Adana et qui raconte donc le pré-génocide. Et donc, un an après ou deux ans après, oui, je suis parti en Turquie. Dans un état, heureusement que j'étais accompagné donc, de cet ami, dans un état de panique quand même. J'ai compris d'un seul coup ce jour-là aussi, le jour d'avant ce qu'étale, pourquoi je n'aimais pas voyager. Et je n'aime pas voyager parce que très vite, au bout de quelques jours, je me sens dans j'ai un sentiment d'exil hein, et une peur de ne jamais revenir là où je vis. Donc c'est quelque chose que je n'arrive pas à maîtriser, que je n'arrive toujours pas vraiment à maîtriser. Voilà. Mais ça a été très symbolique de dire je vais en Turquie. Et puis, le même jour, j'ai décidé d'aller également en Arménie, qui est un pays où mon père n'a jamais été, qui était plutôt un pays mythique pour lui. Donc voilà. Et c'est vrai que ce que je dis il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que j'avais l'impression que le personnage principal, un des personnages principaux tout au moins dans ma vie, qui était sur le devant de la scène, c'était ma mère, mais là, le rideau s'est écarté, ça a été mon père qui est apparu. Et ça a été extrêmement, extrêmement bouleversant. Et là aussi, un père avec lequel, évidemment, je parlais français, mais dont je n'ai jamais parlé sa langue. Je n'ai jamais parlé l'arménien, d'ailleurs, ni le turc. Voilà. Donc, je suis peut-être d'un seul coup... Le chagrin, la violence du chagrin m'a fait aller très 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 profondément, très profondément en moi. Et tout ça, ça a été mêlé également, ça s'est comment dire, ça s'est aggloméré. Alors c'est vrai que j'avais plus de 50 ans et autres, mais d'un seul coup. Pendant des années, comme tout le monde, on perd des êtres chers. Donc j'avais perdu mes parents, j'avais perdu une de mes cousines que j'adorais, j'avais perdu des amis du sida. J'avais vécu des choses assez, assez, assez difficiles, mais comme tout le monde. Eux étaient mortels, eux mouraient, mais moi, non. Moi, ça ne me remettait pas en cause. Moi, je continuais, j'étais immortel. La mort ne me concernait pas. Le chagrin, comment dire, la mort des autres me concernait par le chagrin qu'elles apportaient, mais moi, j'étais toujours immortel, je ne mourrais pas. Et là, d'un seul coup, à la mort de Kétal, ça, ça réunit tous mes morts. Et il y a eu vraiment là un dialogue, c'est pour ça que je dis à maman, c'était un peu comme ce dieu égyptien qui permet d'aller des vivants aux morts et des morts aux vivants. La frontière s'estompe d'une certaine manière. Tantôt, je pense que nos vivants vivent moins que nos morts en nous, et d'autres moments, c'est le contraire. C'est une sorte de chorégraphie étrange, plus ou moins douloureuse, mais qu'il faut accepter. Enfin, on est un être vivant, donc il faut l'accepter. Ça fait partie au plus profond, au plus vivant du vivant, si j'ose dire. Donc, mes morts m'ont été rendues d'une certaine manière. C'est très, 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 très étrange. Et quand j'ai écrit ce livre après sur Adana, il y avait toujours une chose qui me rendait extrêmement triste et qui était difficile, c'est que la première chose qui disparaissait de mes morts, c'était leur voix. C'est-à-dire que j'entendais les mots qu'ils me disaient, les phrases, mais je n'entendais plus la tonalité, le ton, le son. Et quand j'ai écrit sur Adana, la voix de mon père m'est revenue, m'a accompagnée pendant tout le livre et avait fait, si j'ose dire, son travail. Elle est repartie après. Et en revanche, la voix, comment dire, de Kétal, elle ne m'a jamais quittée. Je l'entends, voilà. C'est très, 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 très étrange, mais je pense tout à fait normal. Voilà.
Kétal avait un côté, j'ose le dire maintenant que vous m'avez un peu acclimaté, un côté Deus ex machina, qui s'est fait presque malgré vous. Je prends quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il est mort donc sur la table. Vous l'avez découvert sur la table du vétérinaire un 9 juin. Il est mort d'une embolie. Et vous vous étonnez du mot embolie. Vous trouvez à l'oreille des grâces, de fleurs, de déesses, de femmes. Mais embolie, excusez-moi de jouer au trisotin, ça vient du grec embolé, qui veut dire irruption. Or, ce qui est extraordinaire quand on lit votre livre, c'est que cette irruption vient boucler la boucle. Ce chat, pof, il surgit dans vos bras. Une amie vous le donne. Et puis il disparaît. Du nom même qui désigne ce qu'il a été pour vous. Une irruption fondatrice. Une irruption fondatrice qui vous renvoie vers vos morts. Et je voulais essayer de voir ce qui différenciait ces livres. Et tout de suite, malgré moi, vous en revenez à ce qui les unit. Je voudrais juste donner un extrait du livre d'Akira Mizubayashi, où l'on retrouve en pointillé ce que vous venez de dire, me semble-t-il. Vous écoutez une partition de Mahler, et vous écrivez, Akira Mizubayashi, « Des larmes ne cessaient de couler sur mes joues, à l'horizon de mes pensées apparaissaient deux visages, celui de Mélodie et celui de mon père superposé. » Et là, on retrouve ce qui fait peut-être la force principale de chacun de vos livres, c'est comment un animal, qu'il faudrait cesser d'appeler animal, parvient à nourrir et à faire se croiser, voire à faire surgir ou ressurgir vos souvenirs, et vous renvoie l'un comme l'autre vers votre père. Votre mère aussi pour vous, non pas pour vous parce qu'elle est encore de ce monde, et au contraire, joue, elle, le rôle de frontière plus ou moins étanche. C'est du fait de votre mère que vous n'imaginez pas un instant de faire transférer la dépouille de Mélodie vers le caveau familial. S'il n'y avait pas votre mère, peut-être que ça se serait passé, mais en tout cas, votre père. Et je voudrais que vous nous parliez précisément de cela, de cet aspect, vous avez dit transgressif, mais c'est plus que cela, c'est cette espèce de magnifique superposition de visages où l'on retrouve presque quelque chose d'aussi beau qu'un portrait du Fayoum, où le père et l'animal se mêlent sur ce sarcophage imaginaire Akira Mizobayashi.
J'ai perdu mon père en 1994, Mélodie en 2009. Et ce sont les plus... ce sont ces deux pertes qui m'ont causé une très profonde douleur, voilà. Et mon père et Mélodie ne se sont pas rencontrés, parce que c'est après la mort de mon père que Mélodie est arrivée, mais dans mes nuits, dans mes rêves, ces deux êtres coexistent parfaitement et je suis hanté, je suis totalement hanté par la disparition de ces deux êtres, l'un animal, l'autre humain. Et quand nous avons perdu Mélodie, puisque nous parlons de la mort de Mélodie et de la mort de Kétal, il a fallu que j'invente quelque chose. Vous avez parlé de généalogie interrompue au sujet de Daniel Arsan, mais pour moi, cette façon d'évoquer ses parents et puis ce voyage qui s'est imposé après, ou qui s'est imposé à lui après la disparition de Kétal, c'est justement une manière d'inscrire Kétal dans une généalogie. Et pour ma part, voilà, Mélodie est partie, et puis qu'est-ce qu'on fait ? C'est une situation totalement inédite, parce que je n'avais jamais connu la mort d'un animal. La mort d'un être humain, il y a tout un rituel à suivre dans la société japonaise, le rituel bouddhique. Et voilà le départ, la disparition de Mélodie, et puis la nécessité absolue de lui dire au revoir, de lui dire adieu, de saisir une occasion un peu solennellement pour la remercier, etc. Donc nous avons éprouvé le besoin d'inventer un rituel funéraire, et c'est ça qui a donné lieu à ces pages tout à fait à la fin où je m'aperçois tout à coup que Mélodie qui était appelée ce jour-là, uniquement ce jour-là, pendant toute son existence. Donc il a fallu attendre la disparition, sa disparition, pour qu'elle soit appelée Mélodie Mizobayashi. Mais pas simplement Mélodie. Et ça a été un moment d'un très grand bouleversement chez moi, parce que c'est à ce moment-là précis, c'est-à-dire au moment de cet instant précis qui précédait l'incinération, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que Mélodie n'avait jamais existé en tant qu'être, comment dire, un être qui correspondait à mon sentiment profond. Et elle n'avait jamais eu de place, la place qu'elle méritait dans la société. Et c'est là que je parle du code civil de notre société qui distingue, qui opère une grande différence entre la catégorie des personnes et la catégorie des choses. Et j'ai constaté que Mélodie, juridiquement parlant, avait toujours existé en tant que chose. Et quelque chose qui était totalement inadmissible pour moi. Donc, le moment de cette invention toute personnelle du rituel funéraire est pour moi Mélodie était là à ce moment-là, et là pour moi, maintenant que j'y pense aussi, elle est comme le signe par excellence de l'absence d'une présence. Alors que quand je parle de Mélodie en tant que transgression, elle est plutôt le signe de la présence d'une absence. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vécu sa mort. Et notre tombe familiale, qui porte une inscription gravée sur une pierre tombale, c'est écrit « La famille Mizubayashi », la maison plutôt. Le mot exact serait « la maison Mizubayashi ». Et je sais que Mélodie n'a pas de place dans cette tombe, exclusivement conçue selon les habitudes et selon le code civil, la loi qui gouverne les relations interpersonnelles de notre société humaine. Mélodie n'a pas de place, donc son âme continue à errer dans les espaces, et c'est comme ça qu'elle vient me voir, je crois, de temps en temps. Et c'est pour cela que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai éprouvé le besoin d'écrire quelque chose pour elle, pour lui donner la place qu'elle n'a pas eue.
Et vous, Daniel Larsan, dans Quétal, au détour d'une phrase, surgit deux mots d'une violence extrême, et vous n'insistez pas, certificat d'incinération. Je me dis que vous auriez peut-être une question à poser qui vous brûle les lèvres. Sinon, j'en ai beaucoup d'autres à poser moi-même. Mais peut-être qu'après ce que nous venons d'entendre, quelqu'un voudrait poser une question ? Non. Eh bien, je voudrais terminer, moi, peut-être pas terminer, je ne sais pas jusqu'à quelle heure nous avons. On a le temps, n'est-ce pas ? Je voulais parler du tabou et de la pudeur qui sont présents dans chacun de vos livres. Quétal, c'est un chat qu'on caresse, mais jusqu'à un certain point. C'est un chat qui est plein de rétractions. Si on veut qu'il reste, il faut savoir être discret, et c'est un professeur de discrétion, comme un professeur de pudeur. Il n'aime pas qu'on le regarde faire ses besoins de nature, ni même lamper à l'écuelle. Mélodie, il y a une scène inouïe où vous vous retrouvez, vous, littéralement à poil, à poil devant Mélodie, qui regarde et vous êtes saisi. Vous ne devenez pas l'équivalent de la rosière de Pessac, mais enfin, on vous sent là, tout à coup. Elle vous a enseigné la pudeur dont vous ne manquiez pas déjà. C'est incroyable, enfin. Excusez-moi, je joue continuellement celui qui ne sait pas ce que c'est qu'un compagnon, qu'un animal, mais ça demande peut-être explication, même si les livres en parlent d'une façon admirable, mais là, nous sommes là pour en parler, donc, et on peut en parler sans gâcher le sujet. Cette pudeur liée à Kétal, Daniel Arsan. Au point que le deuil que vous ressentez vous empêche, parce que ce serait trahir Kétal, de vous livrer pendant un certain temps à l'acte charnel lui-même. Ça va même beaucoup plus loin, puisque vous, alors que c'est votre métier de lire des livres en langue anglaise ou espagnole, mais vous faites un rejet de la langue anglaise, qui est une espèce de brouillage de deuil insupportable. Enfin, mais revenons à la pudeur.
Oui, c'est vrai que je rejetais la langue anglaise parce que j'étais en pays étranger d'un seul coup et que j'avais envie d'être avec moi-même et avec en terre connue. Donc en terre qu'arpentée Kétal. Mais les animaux ont une immense pudeur. Ils n'aimaient pas du tout que je le surprenne ou l'observe en train de manger. Comment dire, en train de faire ses besoins, mais je pense que les hommes c'est pareil, ou les hommes et les femmes c'est pareil, et quand jamais ils ne venaient dans la salle de bain, quand je prenais ma douche, ils venaient après, mais jamais pendant la douche. Ah, je crois que l'animal a une... comment dire ? Ce que les humains appellent une sorte de règle de vie, de savoir-vivre, de politesse extrême, et je pense de respect de l'autre, parce qu'ils savent, ce qu'est un territoire, qui n'est pas forcément une séparation, les territoires se jouxtent, il n'y a pas de combat entre ces territoires, mais ils savent qu'il y a des choses à ne pas franchir, je pense. Moi, il m'a appris justement à ne pas franchir forcément le territoire de l'autre quand l'autre n'en a pas envie. Comme il m'a toujours appris, il m'a toujours averti, si je le caressais tout ça, à un moment il en avait marre et il m'avertissait qu'il en avait marre. Si je me faisais griffer, c'est que je le voulais bien et je ne pensais qu'à mon propre contentement, à mon propre j'avais envie de le caresser, mais il y avait lui qui n'avait peut-être pas forcément envie d'être caressé aussi longtemps, donc ça aussi j'ai appris je crois quand même pas mal, plus intensément qu'avant, ce qu'était l'autre, donc voilà.
Akira Mizubayashi, il faut préciser que vous étiez obligé de commettre avec Mélodie ce qui est inimaginable avec un chat, vous étiez obligé de laver de temps en temps Mélodie, ce qui explique la scène dont je parlais tout à l'heure.
Je ne sais pas, j'imagine une des grandes différences entre un chat et un chien, c'est que un chat, il reste toujours à la maison. Il ne sort jamais, pratiquement, non.
Surtout avec un maître comme Daniel Arsan.
Oui, et Mélodie...
C'était son aimable geôlier, il le dit.
Non, lui-même. À Paris, à Paris, oui, mais dans beaucoup d'endroits, les gens qui ont un jardin, les chats sont
peut-être, alors, la nécessité de faire une promenade, ça existe avec un chat ?
J'en ai vu, c'est pas très courant, mais...
Alors, donc, pour Mélodie, c'était absolument... c'était d'une nécessité absolue, la promenade quotidienne, deux fois par jour, le matin et le soir. Et donc, Mélodie, bon, à l'extérieur, tout naturellement, elle se salissait.
Alors que le chat est auto-nettoyant, hein, il faut le savoir.
Ah oui, c'est ça, oui. Mais Mélodie aussi, dans une certaine mesure, oui. Bon, ce n'est peut-être pas les mêmes gestes, c'est... Voilà, elle se nettoyait elle aussi, hein, d'une certaine manière. Alors, il y a une chose importante, c'est que on n'a pas voulu. Il était hors de question pour nous de laisser Mélodie à l'extérieur de la maison, sur le balcon. Donc, il fallait qu'elle soit avec nous dans la maison, dans notre appartement. Ce qui fait que vous savez, les Japonais se déchaussent quand ils entrent dans la maison. Donc, et il faut que il y a une distinction extrêmement rigoureuse entre le dehors et le dedans.
Beaucoup plus rigoureuse qu'entre l'humanité et l'animalité, j'ai cru comprendre.
on fait une séparation radicale entre l'extérieur et l'intérieur. Et l'intérieur, il faut qu'il soit propre. Donc on se déchausse et puis voilà. Et puis pour marquer cette différence de ce degré de propreté. La différence parce que c'est une question de degré. Pour marquer la différence, quand on entre dans une maison japonaise, on monte. Il y a une sorte de dénivellation. Ce n'est jamais de plein pied. On monte et le fait de monter, faire ce geste, nous fait comprendre qu'on entre dans un espace propre, beaucoup plus propre que l'espace qu'on vient de quitter. Donc, si on voulait que Mélodie reste avec nous tout le temps, à l'intérieur de notre appartement, il fallait qu'elle soit propre. Donc, elle n'a pas de chaussures à enlever, donc il fallait trouver l'équivalent, c'est-à-dire après chaque promenade, laver ses pattes. C'était une sorte de rituel, un geste naturel qui s'était instauré chez nous, donc après chaque retour. Et Mélodie acceptait parfaitement, comme si elle enlevait ses deux paires de chaussures simultanément. À l'intérieur de notre espace domestique, elle était en liberté totale, elle n'était jamais attachée à quoi que ce soit, et il y avait des interdits, elle avait intériorisé ces interdits, il y avait des choses à ne pas faire, manger un livre, manger une chaussure, monter sur notre lit, monter sur un canapé, voilà, elle a très bien appris, tout de suite, tout à fait au début de de sa vie avec nous, donc voilà, ces bêtises-là, elle ne les faisait jamais. Donc, elle avait sa liberté de mouvement à l'intérieur. Elle était là comme une sorte de transgression, encore une fois, abolissant en quelque sorte la frontière préétablie entre les humains et les animaux.
Mais par rapport à Daniel Arsan, je voudrais souligner quelque chose. Vous auriez eu un chat, il n'aurait jamais eu le droit de dévorer les rideaux et de grimper aux rideaux. Parce que Daniel Arsan, il laisse tout faire, lui. Il faut savoir. C'est absolument incroyable. Alors que là, nous avons vu, vous avez vu quand même, on a beaucoup transgressé, mais là, on retrouve quelques repères. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais je suis très content parce qu'il l'a dit très, très vite, mais il a dit pattes, il n'a pas dit jambes, hein, à propos de Mélodie. Donc, les choses sont en train, pour le cartésien que je suis, de se remettre en place. Mais pardon, continuez.
Non. Et puis, donc, Alors, quand on vit... ensemble, donc on vivait réellement, véritablement ensemble tous les quatre, trois humains et un animal, et la propreté devait être assurée par la douche aussi. Donc il fallait qu'elle soit propre, puisqu'elle était dans la maison, il fallait qu'elle soit propre, donc l'habitude de la doucher s'est instauré tout naturellement, et c'était mon rôle. Et au début, je la lavais comme ça, avec, Oui, je n'étais pas entièrement nu, je n'étais pas à poil, j'avais gardé mon slip, mais de toute façon, il était mouillé à la fin. Donc, je me suis dit, ça ne sert à rien. Voilà, et je suis devenu comme... j'ai pris la douche et le bain avec Mélodie, comme un Japonais qui prend son bain avec quelqu'un. C'est une pratique culturelle qui mérite d'être expliquée. Peut-être les Japonais ont une pratique du bain un peu particulière. On peut très bien prendre son bain avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une activité individuelle. Il y a des établissements de bains aussi où il y a une grande baignoire où on peut être... Alors, autrefois, bon, ça se fait rare, ça devient plus rare, mais quand j'étais plus jeune, étudiant, ici, on dirait on va prendre un pot ensemble. Mais on pouvait parfaitement dire on va prendre un bain ensemble. Aller dans un établissement de bain. Et donc, le prendre le bain avec quelqu'un, à l'intérieur de la famille, c'est le signe d'une très grande affection. Donc, c'était tout naturel pour moi de la doucher. Comme ça, j'étais à poil. Elle aussi, elle était à poil. Bien évidemment. Et même, j'ai eu le désir de prendre le bain avec elle au sens propre du terme, c'est-à-dire la pratique du bain au Japon, c'est un peu particulier, on se lave complètement avant d'entrer dans la baignoire. La baignoire est beaucoup plus profonde qu'en France, on est assis et puis l'eau chaude vient jusque-là. Donc c'est pour le bien-être, pour se détendre. On y passe d'ailleurs, un quart d'heure, 20 minutes, ça dépend des individus, ça dépend de la température de l'eau aussi. Mais j'ai éprouvé le besoin, j'ai eu envie de prendre le bain avec Mélodie, comme ça, de façon traditionnelle, comme si Mélodie était un être humain, tous les deux ensemble, dans la baignoire, dans l'eau chaude, qui nous fait du bien, quoi. Mais je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé faire ça pour ne pas choquer mon épouse, essentiellement. Parce que c'était un peu trop. Aller trop loin, peut-être, dans la nudité. Et puis, avec un animal... Mais je me suis dit, je parle de ça dans mon livre, il y a cette histoire d'un chien un peu mythique qui s'appelle Hachiko et qui a attendu le retour de son maître pendant plus de 10 ans à la gare de Shibuya, toujours à la même heure, toujours au même endroit, toujours dans la même posture, etc. Et comme c'est un chien un peu mythique, que tous les Japonais connaissent, y a un cinéaste qui a fait un film japonais qui a eu un grand succès d'ailleurs, et dans ce film il y a une scène que j'aurais aimé vivre avec Mélodie, c'est-à-dire le maître, le professeur d'agronomie à l'université impériale de Tokyo prend son bain avec son chien Hachiko dans la baignoire en bois, et il y a un sentiment de bonheur indicible qui s'élève dans cette scène. Y a une version américaine qui a été faite à partir de ce film japonais. Ça s'appelle Hachi. L'histoire centrale, c'est la même, mais dans la version américaine, avec les acteurs américains, avec le cinéaste américain, avec tout est américain, ça se passe aux États-Unis. Évidemment, cette scène n'existe pas. Cette scène que j'aurais aimé vivre, voilà. Mais pour en revenir à la notion de pudeur, La pudeur n'existait pas à ce moment-là. Je n'étais pas du tout, absolument pas gêné par ma nudité face à Mélodie, contrairement à Jacques Derrida qui a éprouvé ce sentiment-là quand il a été regardé par son chat à la sortie de sa douche, je crois. Et c'est le point de départ de son projet philosophique qui s'est concrétisé dans ce livre absolument magnifique, L'animal que donc je suis. Et j'ai volontairement employé le mot à poil, j'étais à poil, pour envoyer un petit signe d'admiration à ce livre de Derrida.
Merci. Nous allons nous arrêter là, mais nous pouvons imaginer ce qui serait arrivé dans l'Odyssée si Argos n'était pas mort en retrouvant Ulysse. Ils auraient sans doute pris un bain ensemble. Et il faut noter que, évidemment, Daniel Arsan n'a jamais pris de bain avec son chat. En revanche, Daniel Arsan a pu emmener son chat, notamment en Normandie, alors que Mélodie, vous ne pouviez pas l'emmener en France, ni même chez votre mère, parce qu'il y avait une sorte d'hostilité familiale, et puis que là, les frontières étaient trop dures à franchir. Et donc, on peut trouver, comme ça, entre ces deux livres, énormément de correspondances, mais aussi de différences. Et je voudrais terminer en rappelant tout de même une différence essentielle entre les colons britanniques et les colonisés américains, c'est qu'à la Maison Blanche se succèdent des chiens, alors qu'au 10 Downing Street, il y a des chats pour chasser les souris qui se succèdent en étant nommés à chaque fois. On doit trouver ça sur Wikipédia d'ailleurs, le nom des chats des ministres de Sa Gracieuse Majesté. Et là, l'Atlantique les sépare, d'un côté les félins dans la vieille Europe, de l'autre côté, les chiens dans le Nouveau Monde. La séparation n'est pas aussi évidente. Elle est faite d'interpénétration entre ces deux livres. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté d'en parler avec à la fois autant de réflexion et de sentiments. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Merci aussi à toi, Antoine, d'avoir permis, dans ce dialogue, de nous rendre la substantifique moelle de ces deux livres magnifiques. Et puis, d'avoir entendu aussi, parce que tu leur as fait dire ce que tu leur as fait dire, cette sincérité qui est au cœur de vos livres, dans un respect absolu des êtres dont vous parlez. Voilà. Nous vendons, grâce à la librairie Chan, les livres de Daniel Arsan et d'Akira Mizubayashi. Voilà, donc c'est là-haut si vous voulez les acquérir. Je voudrais dire que Daniel Arsan, je crois, n'a jamais perdu la voix de Kétal, puisque au téléphone, auprès de ses amis, il lui arrive de miauler encore. Merci beaucoup. On retrouve Akira, vous serez de nouveau avec nous la semaine prochaine, et ça, je m'en réjouis aussi beaucoup, le 14 après-midi. Voilà. Merci à tous.